Bah donc bienvenue à vous tous et toutes pour cette rencontre sur la prière. Alors là pour le mois d'août, on proposait de suivre un petit peu le plan du Notre Père, si vous voulez. Et donc la dernière fois, on a vu un peu la contemplation avec Notre Père qui est aux cieux, un peu une contemplation. Et maintenant, c'est avec Donne-nous notre pain. C'est la prière de demande. Alors, dans l'Évangile selon Luc, je vous propose au chapitre 11 ce passage. Alors, bon, je vais vous le lire parce qu'il n'est pas très long, donc on a le temps peut-être de lire ce passage en entier. Et puis, ce qui est curieux, donc en fait, c'est qu'il y a la version de Luc du Notre Père, donc on est bien un peu en écho de ce thème. Alors, voilà. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité, et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, donc nous dit Jésus, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe à la porte. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors voilà, c'est toujours un peu curieux avec Jésus, vous savez. Là, ça manque pas finalement à son style, hein. Style curieux, théologie un peu curieuse aussi, étonnante, très rassurante aussi, je trouve. Alors, en tout cas, ça commence avec Jésus qui priait un certain jour en un certain lieu. Bon, un peu plus précis. Merci du renseignement. Mais en même temps, si vous voulez, ça dit deux choses. Ça dit d'abord que Jésus priait. Ce qui n'est pas une évidence totale, parce que les gens pensent que Jésus est Dieu. Bon, alors c'est un peu ennuyeux, ça les gêne un peu ces passages, ceux qui pensent que Jésus est Dieu, ce qui n'est pas obligatoire. Hein. On peut se dire que Jésus a quelque chose de Dieu, est un homme en communion avec Dieu, un prophète, ou bien Dieu lui-même. Chez les chrétiens, on voit de tout. Bon, là, visiblement, Jésus prie. C'est un peu les deux, en fait. Dans l'Évangile selon Luc, il prie même assez souvent, en fait. Ça arrive régulièrement, et ça arrive souvent à un moment un peu délicat de son existence. Visiblement, il a besoin de faire le point, de reprendre des forces. Bon. Alors, en un certain jour, en un certain lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de jour magique ou de lieu magique, en fait, à mon avis. Voilà. On prie comme on le sent, quand c'est bien pour nous et à l'endroit où ça convient. C'est ça que ça veut dire, finalement. Il ne va pas prier forcément au temple ou... Il ne dit pas qu'il faut prier 5 fois par jour. Déjà, c'est un enseignement. Et puis, on peut voir aussi, c'est que... Bon, il revient vers ses disciples. Donc, visiblement, c'était un peu à l'écart, quand même. Et ça, on le retrouve dans Matthieu aussi. La prière, c'est dans un lieu secret, c'est à l'écart, c'est très intime. On ne sait pas ce qu'il prie. Voilà. Et donc, les disciples, ça leur donne envie de prier. Ça, c'est aussi un truc important. C'est que la prière, c'est intime, mais... Peut-être qu'on peut dire aux autres que la prière est pour nous importante, hein, que ça puisse être un témoignage peut-être. Bon, cela dit, je ne sais pas s'il faut prier avec les autres, parce que si c'est complètement intime, c'est toujours un peu gênant peut-être de prier en public, enfin je ne sais pas. En tout cas, ça donne envie aux disciples de prier. Et puis de prier, pourquoi ils veulent prier comme Jésus? Peut-être parce qu'il voit que revenant de la prière, eh ben, il est transformé quelque chose, peut-être. Hein. Il était tout d'un coup dans le doute ou dans les difficultés. Il va prier peut-être la nuit sur une montagne, dans un coin secret, un peu à l'écart. Il revient, il est un peu transformé, illuminé. Donc ils se disent, mais ça lui fait quelque chose de positif. Donc nous, peut-être, on peut trouver le truc. Alors ensuite, Jean, il a enseigné à ses disciples. Alors ce qui est quand même touchant, je trouve, c'est qu'il existe encore aujourd'hui des disciples de Jean-Baptiste. C'est les Mandéens. Enfin, il en existe encore. Il faut se dépêcher parce que comme ils étaient du côté de l'Irak, là-bas, je ne sais pas très bien sur quel pied ils peuvent danser en ce moment, si vous voulez. Quoi ?
S'ils dansent encore.
S'ils dansent encore, oui. Les Mandéens, donc en fait, c'est des disciples, ils pratiquent le baptême, ils ont un peu des liturgies, un peu dans une sorte de vieil araméen, et c'est mélangé un peu entre des pensées gnostiques, vous savez, très dualistes, avec le positif et le négatif, le chemin des ténèbres, le chemin des lumières, et puis ils pensent que Jésus est un gros nul, et que... Mais sinon... Donc c'est quand même touchant, parce qu'il reste donc un peu des disciples de Jean-Baptiste à l'époque, qui ne sont pas devenus chrétiens, qui pratiquent le baptême. Et donc Jésus leur propose cet enseignement. Alors là, il y a une version courte du Notre Père. Mais on a toujours le plan qu'on vous propose avec Soyon donc pour cette étude biblique. C'est, vous voyez, la contemplation au début. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous, avec la prière de demande, l'histoire autour du pardon, un peu. Hein, et puis l'appel au secours, donc, face au mal, face à la difficulté, la lamentation, peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Notre Père selon Matthieu ? Ben, c'est d'abord, c'est Père tout court. Alors, peut-être, c'est plus intime, plus cœur à cœur, vous voyez ? Peut-être que Notre Père, qui est déjà plus collectif, mais le nous, il va arriver, vous voyez, il arrive assez vite, et puis après, il ne disparaît plus, le nous. Donc c'est une prière, vous voyez, vraiment, qui commence dans le cœur à cœur avec Dieu, dans l'intimité du face à face, et puis qui progressivement s'ouvre au nous. Voilà. Alors ensuite, Jésus, il propose, il leur dit encore, donc c'est la suite de l'enseignement sur la prière, en fait. Et là, c'est assez curieux, finalement. Il propose donc une première image avec une sorte d'ami pas très sympathique, en fait. Un ami, entre guillemets, c'est un peu les amis Facebook, vous savez, on est amis. Et puis, en fait, si on leur demande quelque chose, ils vont vous répondre, bah, écoutez, on ne se connaît pas bien, en fait. Non ? Mais, je ne sais pas. Ou en tout cas, bon, l'ami... Voilà, pas très sympathique, pas très quand
c'est
même...
C'est le terme ami qui n'est pas toujours bien...
Bah oui, c'est ça. Bah, c'est peut-être aussi comme les croyants non pratiquants, si vous voulez. Oui, on croit en Dieu, c'est important, il y a bien quelque chose, et puis en fait, ça ne nous empêche pas de dormir du tout. Enfin, c'est pas que je veuille que la foi vous empêche de dormir, mais peut-être si ça pouvait changer un peu quelque chose à notre existence, ça serait quand même intéressant. Bon, alors là, c'est... Voilà, lui, il a un ami qui arrive, ça ne va pas changer sa conduite de vie. Hein. Puis, bon, il continue tranquille. Hein. Après, il y a l'idée, la comparaison avec un père humain, finalement, qui est quand même assez sympathique, qui s'occupe de ses enfants. Donc, il y a déjà une progression, quand même. Hein. Et puis après, il y a le père céleste qui est parfait, alors que nous, on est un peu moyens, quoi. Donc, il y a une progression, vous voyez. Et ça, c'est quand même, je trouve, c'est quand même touchant. C'est-à-dire que Jésus, il ne vient pas imposer sa théologie en disant, ben, il n'y a que ma théologie qui est bonne, tous les autres, c'est nul, vous ne pouvez rien en tirer, vous êtes fichus. Non. Finalement, il y a un peu... Il les accompagne, il dit, bah, peut-être vous avez une mauvaise expérience finalement de Dieu et de la prière. Un Dieu qui est un peu indifférent, un Dieu qui ne s'occupe pas tellement de vos affaires, un Dieu qui... Il dit, bon, bah, même si vous avez cette théologie-là, finalement, bah, quand même, ça vaut le coup de prier quand même. Moi, je trouve que c'est encourageant, vous voyez. Jésus, il accepte finalement qu'on puisse avoir une théologie un peu déçue quoi, de Dieu, peut-être, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est très... très libéral de la part de Jésus. Hein, Alors cela dit, il accepte qu'on puisse avoir une vision de Dieu un peu faible, hein. Mais quand même il essaye de faire évoluer cette notion de Dieu, c'est-à-dire qu'il essaye progressivement de conduire les auditeurs à une notion de Dieu comme un Dieu dont vraiment on n'a totalement rien à craindre, un Dieu qui est même plus aimant que le plus aimant des pères et des mères. Donc c'est déjà, si vous voulez, il conduit à une théologie vraiment d'un Dieu de compassion totale.
Mais il dit que Dieu lui donnera le Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'il donnera ce qu'on demande.
Exactement.
Donc il ne faut pas non plus s'imaginer
que c'est le Père Noël.
Mais peut-être qu'on aura le Saint-Esprit qui nous permettra de supporter ce que...
Donc effectivement, on part avec un peu un Dieu, l'idée d'un Dieu qui nous déçoit finalement, hein, qui serait comme un ami qui s'en fiche un peu. Il y avait dans la mythologie grecque, il peut y avoir... Bonjour Adrien. Qui peut être un peu comme ça, il y a une petite feuille sur la table. C'est une vision de Dieu qui peut être un peu comme ça, avec un Dieu un peu lointain qui s'en fiche, quoi. Mais finalement, on arrive à quelque chose qui nous prépare aussi à... Peut-être à pas avoir tout à fait ce qu'on est, comme vous dites, hein, tout à fait ce qu'on espère. Mais il n'y a pas marqué qu'il peut pas donner autre chose que le Saint-Esprit. Parce que quand même avant, si un fils demande du pain, il donnera pas de pierre. Hein.
Oui,
bon,
oui,
il donnera pas de mauvaises choses, mais on nous dit pas qu'il donnera un pain non plus, quoi. Et c'est un point d'interrogation. Et donc ça laisse le suspense. Hein, et ça laisse oui, cette interrogation, de savoir hein, qu'est-ce que Dieu... tout au long de ce texte, ce qu'on peut dire, c'est que Jésus, il dit et il répète que de toute façon, la prière est efficace. En fait. Comment elle est efficace, ça reste un point d'interrogation, quand même. Il clôt pas le débat, et on sait bien que c'est la question, parce que... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, en fait, j'étais même pas encore pasteur, mais je faisais fonction de pasteur dans le fond de la campagne... Et il y a une petite fille de 11 ans qui est morte de leucémie dans des souffrances atroces. Et c'est vrai que là, si vous voulez, la théologie du Dieu voilà, tout puissant et tout aimant, c'est un peu limite. Ouais. C'est pas possible. Parce que les parents étaient hyper croyants, ils avaient prié pour demander la guérison de leur fils, ce qui est tout à fait légitime. Tous leurs amis, toute la paroisse priaient pour la petite Ludivine, 11 ans. Et puis elle est morte quand même, si vous voulez. Donc c'est vrai que là, ça pose quand même un vrai problème. Voilà, effectivement, il y a cette déception face à la prière juste, légitime. Il y a une déception face à la souffrance non seulement imméritée. Bon, je pense qu'aucune souffrance comme celle-là, la mort dans une maladie, une souffrance atroce, n'est jamais méritée, même pour le pire des... monstre, c'est pas mérité, ou en tout cas c'est pas dans le plan de Dieu, évidemment, nous dit Jésus. Mais en plus c'est de la souffrance gratuite et inutile, improductive, vous voyez, ça démolit tout le monde et ça n'apporte rien à personne. Donc c'est un gâchis terrible. Alors effectivement, à mon avis, c'est là qu'il faut une théologie du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'un Dieu qui agit. Alors le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est... Si on reprend le début de la première page de la Bible, hein, dans la Genèse, le Saint-Esprit, c'est cette présence de Dieu qui participe à l'évolution du monde, à la création du monde par une évolution progressive. Et donc, ça nous dit quelque chose, la manière dont Dieu agit. Il agit comme source d'évolution, source de réconfort, source d'accompagnement, source d'évolution, pas simplement à l'intérieur de nous-mêmes pour nous donner le moral et mieux supporter la souffrance, non, vraiment une dynamique d'évolution, même en dehors de nous. Dieu nous a pas attendu pour créer le monde, pour le faire évoluer, donc il agit quand même, mais il agit pas en faisant la pluie et le beau temps, on le sait. Donc quand on lui prie légitimement d'avoir du pain, peut-être il fera pas pleuvoir des pains sur notre table, mais ça veut pas dire qu'il agit pas quand même. Il peut agir en... peut-être d'abord en nous donnant de supporter cette condition, oui. Il peut nous agir en nous donnant peut-être d'inventer des solutions de ressources nouvelles qu'on n'avait pas soupçonnées. Il peut attendrir le cœur de riches amis, entre guillemets, qui pourraient nous donner mais qui ne donnent pas. Il peut
susciter quelqu'un qui donnera le pain.
Il peut susciter quelqu'un qui donnera le pain et lui ouvrir le cœur, comme dans le début de la parabole, finalement. Hein. Voilà. Donc, il peut faire plein de choses. Il ne peut pas faire tout et son contraire. Ça, c'est le problème. Donc, du coup, je trouve que Jésus est assez honnête. Mais c'est souvent le cas. Dans la prière de demande, il y a d'autres endroits où il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, Le Père vous le donnera. Mais qu'est-ce que ça veut dire demander en son nom? Ça veut dire demander en communion avec ce que Jésus-Christ aurait demandé finalement. Et lui, ben, justement, dans la tentation au désert, c'est la première fois où il se met en prière finalement, dans l'évangile selon Luc au chapitre 3. Tout d'un coup, il a faim et il voit des pierres et il a le désir de faire un prodige, de transformer les pierres en pain, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Mais il résiste en se disant, ben non, c'est pas comme ça que ça marche et je vais plutôt avoir faim de parole de Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui vient de Dieu, qui crée, qui va me créer comme capable de faire face à la situation.
Pardon.
Oui.
Il peut susciter quelqu'un qui donnera le pain.
Peut-être,
et
oui.
Parfois, il peut susciter quelqu'un qui donnera le soin, même pour la leucémie.
Mais exactement, c'est ça, tout à fait, oui. Ah oui, non, mais c'est ça.
Quand même, la souffrance de l'enfant, elle est la souffrance, et donc on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Bon, là, c'est quelque chose hors de notre compréhension.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est mauvaise, moi, je crois. Qu'on peut déjà comprendre ça, que Dieu ne veut pas la souffrance,
oui,
et donc qu'elle est mauvaise, et donc qu'on peut lutter contre. C'est de la négativité. Ça, je crois qu'on peut quand même le dire.
Oui.
Ensuite...
On lutte beaucoup plus contre la souffrance. Que ce fut un temps.
Alors déjà, oui, maintenant...
Il y a des médicaments qui permettent d'atténuer la souffrance.
Mais celui qui souffre, il souffre.
Celui qui souffre, il souffre.
Et puis voilà, c'est comme ça, et voilà.
Oui, et donc
on l'accepte, c'est tout.
On l'accepte, ou alors il faut... Bon, on l'accepte, si on ne veut pas faire autrement, mais sinon on lutte contre. Et on peut lutter contre légitimement, parce qu'on sait que Dieu ne veut pas la souffrance...
Ouais.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, si vous voulez, mais là, quand je dis ça, c'est pas pour légitimer la souffrance ou la maladie ou quoi que ce soit. Tant qu'à faire que la souffrance, la maladie et la catastrophe soient là, on peut la transformer en un supplément de bien. Et souvent, les gens qui ont une vraie compassion, c'est des gens qui ont traversé la souffrance et qui savent ce que ça veut dire. Donc, il y a une façon, si vous voulez, de traverser la souffrance. C'est pas pour la légitimer. Mais tant qu'à faire qu'elle soit là, on peut... faire qu'elle nous rende meilleure, en fait. Ce qui n'est pas une évidence, parce qu'elle peut nous aigrir, elle peut nous désespérer, elle peut, voilà.
Justement, dans ce texte, Jésus parle de la prière de demande, mais je pense qu'il ne parle pas de la prière d'intercession, dans ce texte-là. Nous avons un peu, ce comme deux choses qui sont à distinguer.
Alors, la prière d'intercession, un tout petit peu, parce que dans
l'enfant qui est malade.
Oui, mais donne-nous notre pain de quotidien. On peut effectivement se dire, moi, j'ai largement de quoi manger. Là, on a des gâteaux sur la table, des chouquettes et tout ça. Mais on peut penser à ceux qui n'ont rien à cette occasion-là, vous voyez. Et donc, c'est un peu de la prière d'intercession. Mais dans un sens, avec l'image qu'il propose, là, nous, on est dans notre lit avec notre famille, on a bien mangé, on se tape sur le ventre tranquillement, et puis celui qui passe à la porte et qui dit, même pas pour lui, pour un ami de passage qu'il essaye de nourrir. Bon, écoute, moi je me dérange pas, voilà. Là aussi, il y a l'idée, si vous voulez, de penser aux autres aussi. L'exemple qu'il donne, il est intéressant, parce qu'il accompagne la théologie déçue, finalement, de ses auditeurs, mais. L'exemple qu'il donne, il est intéressant parce qu'il ouvre quand même à une certaine compassion. À aller taper à la porte de l'ami, c'est à taper à la porte de Dieu, pour un de ses amis qui est de passage. Donc on peut y voir aussi un encouragement à l'intercession. Mais une intercession peut-être qui nous implique nous-mêmes, pas simplement prier pour la paix. La paix en Syrie, c'est facile de prier pour la paix en Syrie.
Mais pour un enfant, c'est aussi une intercession, mais c'est aussi pour soi.
Oui, et puis ça peut être l'engagement de se dire, bon, est-ce que par hasard je peux faire quelque chose pour cette famille et pour cet enfant, peut-être hein, aussi, voilà.
Moi, j'ai vécu en réunion de prière des personnes qui avaient lu le journal avant de venir. Donc, ils avaient trouvé dans le journal matière à compassion.
Ça, j'imagine, oui. Oui, mais l'exaucement de cette prière...
C'était des personnes qui ne parlaient pas de leurs propres besoins, qui pourtant... Nous connaissions, puisqu'on connaissait les membres du groupe.
Alors ça, c'est pas mal, parce que peut-être ça peut ouvrir à une autre préoccupation que son petit nombril, c'est pas mal. Mais quel va être l'exaucement, si je prie Dieu pour la paix en Syrie,
c'est
sympathique, et en même temps, ça ouvre effectivement à une préoccupation d'autrui, ce qui est pas mal. Mais l'exaucement, ça sera peut-être... De toute façon, Dieu, il attend pas qu'on le tienne au courant qu'il y a un problème à l'autre bout du monde, il le sait bien mieux que nous. on lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire. C'est quand même un peu curieux parce que ce serait plutôt à nous à apprendre ce que Dieu aimerait faire plutôt que nous de dire à Dieu ce qu'il devrait faire si on était à sa place. C'est un peu curieux comme position aussi. Mais quel va être l'exaucement ? Ben, ça va peut-être être de faire la paix avec notre voisin, ça va peut-être être ouvrir notre cœur à la compassion autrement, ça va peut-être être... c'est peut-être très surprenant la manière dont Dieu va exaucer cette prière d'intercession, si vous voulez. C'est pour ça que Jésus est pas mal de laisser dans le flou, vous voyez, la réponse à ça. Dieu, il nous dit, en tout cas, Dieu n'est pas sourd à ça, Dieu va se laisser changer même par votre prière. Comment il va répondre, comment est-ce qu'il va se laisser changer, ça reste à découvrir, finalement, dans un esprit d'ouverture et de disponibilité, peut-être. Oui.
Est-ce que, en fait, Jésus ne dit pas ici que le simple fait de prier ne suffit pas? Parce qu'en fait, dans le 9, là, il dit qu'il faut faire des actions. Il faut chercher, il faut frapper, il faut demander. Donc ça veut dire que la prière, oui, n'est pas suffisante en elle-même, mais nous-mêmes, nous devons quand même agir pour que... voilà.
Sauf que là, peut-être demander, chercher et frapper, c'est un peu le sens des sens de la prière aussi, non? C'est un peu des termes qui décrivent peut-être là aussi une progression dans la prière. Hein. De passer de la prière de demande à une prière de recherche, une recherche de sens, de théologie, de justice, de ce qu'on pourrait faire, du sens, de quel sens on peut donner à ce qu'on vit. Et puis ensuite à frapper, c'est-à-dire à entrer dans une communauté et... peut-être celle dont on parle juste au-dessus avec Jésus, voilà, une sorte de maison où Dieu est là avec ses enfants, finalement. Oui.
J'écoute depuis tout à l'heure tout ce qui se dit, et j'avoue, j'ai du mal à concevoir l'utilité de la prière de demande, encore plus fortement après ce que vient de dire monsieur. Enfin, si j'essaie de donner un sens à ce que j'entends, je me dis la prière de demande, ça vient finalement à se dire à soi-même qu'on a pris conscience d'un problème, et que ben on va devoir trouver un moyen de le régler. Et donc de le régler comment? Ben, soit en demandant aux personnes qui peuvent.
En donnant le Saint-Esprit, peut-être.
Non, je n'aime pas.
Ça peut vous donner la force d'agir aussi, peut-être.
C'est vrai que je ne vois pas les choses comme ça. Je l'ai entendu tout à l'heure. J'avais trouvé que c'était très, très optimiste ce que vous disiez, de se dire ben, peut-être que ça va être une action de quelqu'un qui va pouvoir faire pour nous. Mais c'est vrai que je ne conçois pas la prière de demande, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et quitte à le comprendre, je comprends encore le moment où on se rend compte qu'on n'a pas les moyens, qu'on est juste perdu et qu'on verbalise une problématique à laquelle on fait face. Et une fois verbalisé, parce qu'on a commencé à y faire face, on va peut-être commencer à réfléchir à comment. Et c'est là que, pour le coup, je comprends ce que dit monsieur sur à qui est-ce qu'on va demander de l'aide dans la vraie vie. Chez qui est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va aller chercher, quelles sont les ressources qu'on va mobiliser, chez qui on va perdre, à quelle porte on va aller frapper. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de prière de demande de ma vie, cette nuit. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et tel que je le comprends par rapport à tel que je l'ai vécu, c'était juste que j'ai un souci, j'ai un gros souci et j'ai pas les moyens. Je sais pas quoi faire. Donc, je le formalise, je le verbalise.
Ben ça, je dirais que c'est au moins un des premiers avantages de la prière. C'est effectivement, et la prière de demande en particulier, c'est de faire un peu le point et de verbaliser ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, ce qui nous préoccupe.
C'est comme ça que je le comprends.
Mais c'est au moins ça.
Je ne comprends pas comme aller solliciter Saint-Esprit, c'est quelque chose, ça me dépasse.
Sauf que si vous voulez, alors on n'est pas forcé de penser ça, il y a des chrétiens qui ne le pensent pas forcément, mais qu'il y a un Dieu qui soit extérieur à nous-mêmes et qui puisse intervenir dans les affaires du monde. Alors je sais, c'est discutable, et tous les chrétiens, tous les croyants ne le pensent pas, mais c'est quand même une expérience qui est commune à beaucoup de croyants, donc un Dieu qui peut intervenir, qui peut nous aider, qui peut apporter quelque chose. Et à ce moment-là, on peut le voir comme un travail en équipe au moins. C'est là peut-être que l'image de l'ami est intéressante et complète bien celle du Père. Un ami, on peut lui confier ce qui ne va pas et peut-être il pourra faire quelque chose. Et donc il y a cette confiance et cette humilité d'un Dieu qui peut peut-être faire quelque chose. Et à mon avis, oui, Dieu n'est pas tout puissant, ça je crois que c'est important de le dire, mais il est quand même très puissant, infiniment puissant, et Il agit pas comme on l'entend, il agit pas comme on le pense, mais il agit dans les profondeurs de quelque chose. Et oui, mais enfin, même si on se fait un film en se disant ça, il reste quand même ce que vous disiez. C'est pas inutile dans sa pensée de présenter, de verbaliser qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je souhaiterais, qu'est-ce que je crains, quels sont mes vrais gros soucis et mes petites espérances, et faire le point dans la prière, placer ça face à son idéal, face à dans le calme, dans le retrait du monde, prendre un temps pour poser ça, c'est déjà formidable.
Est-ce qu'une objection que vous amenez ne serait pas une objection du côté de ne pas insister sur le côté théiste du Père, c'est-à-dire sur la présence d'un Dieu qui peut aider, mais plus de l'autre côté sur la mémoire ou l'empreinte du Fils. C'est-à-dire, je pense à cette formule de Jésus quand il dit « Je suis là chaque fois que plusieurs sont réunis en mon nom », et qu'au fond, ça serait cette communauté-là qui pourrait faire qu'il y ait du Père, même simplement comme une adresse, pas une adresse postale, hein, comme une adresse, c'est un lieu où on adresse de la prière et où ça tient parce qu'on est plusieurs à l'adresser et qu'il y a une fraternité entre plusieurs qui adressent dans un même lieu qui est peut-être virtuel, mais qui marche s'il y a plusieurs qui font communauté. C'est peut-être très embrouillé ce que j'ai dit.
Moi, je pense que c'est parabole. C'est l'ami. C'est oui. Comme demande l'ami. C'est l'ami, ça c'est Dieu. C'est-à-dire, hein, Dieu, comme l'ami, comme ils ont demandé, n'importe quand. Bon, l'ami, on ne peut pas demander l'ami comme ça. Même Dieu, on peut demander l'ami. Mais c'est 24 heures sur 24 heures. N'importe quand, on peut demander, il écoute. C'est ça, moi, je trouve, cette parabole, pour vous, c'est pratiquer notre prière. Il nous enseigne, moi, je trouve, c'est ça, c'est l'ami. Bon, c'est raisonnable, non, c'est quand on pense, on ne peut pas demander un ami.
Mais si, on peut demander un ami.
On ne peut pas demander, bon, on
si.
Peut pas chercher.
Bon, si.
Oui,
mais un bon ami, on peut le déranger à minuit pour lui dire, écoute, je suis désolé, j'ai besoin pour mon enfant d'un médicament, tu peux pas aller me le chercher, on le fait, si.
Oui, bon. Mais c'est rare. En tout cas, on a déjà réagi, notre c'est le intime, c'est le ah, c'est il faut pas déranger. Si on pense à un ami, meilleur ami, oh, c'est le, il s'est couché déjà, bon, il faut pas demander, il faut pas déranger. Bien sûr, devant la peine de mort, bon. On cherche peut-être, mais là, c'est un parabole pour, comme un ami, c'est on cherche Dieu n'importe quand, et il nous écoute.
Peut-être que Dieu, c'est un ami insomniaque.
En tête, que j'ai observé la pratique de la prière,
oui.
En tout cas chez les Africains,
oui.
Tel que je l'ai observé, j'ai plutôt observé que c'était un outil d'apaisement en termes. Mm. Donc je reviens avec vous sur le fait de prier en communauté, de prier alors que ce soit dans une église ou au sein d'une famille ou prier. Ça, je l'ai vu l'aspect apaisant. Alors on n'a jamais parlé de prière de demande dans mon environnement familial, donc c'est quelque chose que je ne connais pas, j'entends pour la première fois là. Et puis je n'ai jamais pratiqué en fait. Mais la prière, je comprends comme un outil d'apaisement individuel face, même collectif, face à la vie qui peut être très difficile.
Ben voilà, non, c'est bien.
Mais ça, pour ça, pour que ça fonctionne, tel que je comprends, tel que je l'ai vu, il faut que les personnes déjà à l'origine aient la foi, qu'elles soient croyantes et qu'elles croient effectivement en une présence comme ça, et c'est elles qu'elles invoquent.
Oui, mais cela dit, bon, là, si vous voulez, en tout cas, Jésus, lui, il conseille de prier plutôt tout seul qu'en groupe, en tout cas, et la prière de demande, il l'intègre quand même dans le Notre Père, donne-nous notre pain. On ne sait pas très bien ce que veut dire le pain. Voilà. On ne sait pas très bien ce que c'est que le pain, parce que si vous voulez, le pain quotidien, là, ou le pain de ce jour, c'est un petit peu compliqué, parce que le mot, c'est épiousios, ça veut dire super substantiel. Super substantiel, ça peut être soit le pain de demain, soit le pain quotidien, soit c'est le pain spirituel.
Oui.
Soit c'est le pain de la vie éternelle, enfin ça peut vouloir dire plein de choses différentes, mais en tout cas, il ouvre là à une prière de demande de ce qui pourrait nourrir notre être là aussi. De considérer la prière de demande comme une demande de pain, c'est quelque chose pour nourrir notre être. Et ça, je crois que déjà l'exemple que Dieu donne est assez intéressant, à mon avis, comme proposition de prière de demande, en fait. Ensuite, pour ce qui est de prier dans les moments difficiles, à mon avis, l'exemple qu'il donne, même si effectivement il part d'une théologie quand même assez pauvre des gens qui l'accompagnent, parce qu'un ami qui n'en a rien à faire de notre situation, ce n'est pas une image très reluisante de Dieu, mais quand même, il nous dit, trouver un ami, donc Dieu comme ami, c'est déjà intéressant parce que c'est quasiment un égal. Et puis, par exemple, on parle d'Abraham, l'ami de Dieu, ou bien Moïse, ami de Dieu, ou bien c'est quand même des images qui sont intéressantes, où on parle Dieu face à face, c'est quand même touchant. Hein. Au milieu de la nuit, ben, c'est justement prier quand on est dans le noir, quand on a... La nuit, souvent, c'est un type même de... Quand on n'a pas la foi, quand on n'a plus le moral, donc c'est, voilà, c'est à la limite, c'est ce que je disais dimanche dernier, c'est quand on n'a pas la foi que c'est particulièrement le bon moment de prier, pour demander la nourriture pour notre foi, demander du pain pour celui qui, pour un ami qui est en voyage, pour nourrir le cheminement d'un ami. Alors c'est pour nourrir peut-être le cheminement spirituel de quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas le moral, ça peut être nourrir notre propre cheminement spirituel aussi, trouver de l'énergie, de la force. En tout cas, l'exemple au milieu de la nuit, c'est aussi nous dire, même dans l'abîme du fond de la foi, la nuit aussi, les ténèbres, puisqu'on parle du Saint-Esprit, c'est la première page de la Genèse, c'est avant la création du monde, avant même le premier jour où la lumière soit créée, c'est cette... ce chaos, ce tohu-bohu de l'existence, c'est ce moment-là où c'est le bon moment pour prier, pour demander à Dieu qu'il nous nourrisse, voilà, ou qu'il nourrisse quelqu'un qu'on aime. Hein. Voilà. Alors pourquoi trois pains? Alors ben, le chiffre 3, chaque fois que Jésus interprète une de ses paraboles, il le fait comme si c'était une allégorie, c'est-à-dire comme si chacun des termes est à comprendre comme une image. Il lit toujours ses paraboles comme ça, Jésus. Donc, pour lui, les paraboles, ça a un sens un peu surprenant. Là, la surprise à la fin, c'est que Dieu, si c'est sorte d'amis pas très sympathique, il va pas être fâché qu'on insiste, qu'on insiste, qu'on insiste. Donc, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de crainte à avoir de Dieu. On peut vraiment lui casser les pieds. Ça va. Au contraire, c'est cette insistance, c'est ça qui va provoquer finalement l'exaucement de la prière. Donc, comme disait Eun, il y a l'encouragement à prier sans cesse tant qu'on n'est pas sorti d'affaire, finalement.
Moi, il y a vraiment un terme que je n'arrive pas à comprendre. Mmh. Il ne se lève pas pour nous donner, il se lèvera à cause de son apport. Importunité, il donnera ce dont il a besoin. Pour moi, c'est incompréhensible.
Oui, d'autant plus que ce mot, il est très rare, en fait. Anaideia, c'est très rare, ça apparaît qu'une seule fois à cet endroit-là dans toute la Bible. Vraiment, normalement, c'est...
Peut-être que ça a été jeté après, non? Ça a été jeté après, peut-être. Dans les coquilles, il y a des mots, on peut les
lire. Alors, c'est pas possible parfois, mais là, c'est tellement. Ça s'invente pas, quoi. C'est tellement surprenant, quoi. Hein? Que. Oui?
Est-ce qu'on ne peut pas le raccrocher à quelque chose qui a été dit? C'est-à-dire, parfois, on a besoin, on aurait besoin d'aide et on n'ose pas demander de crainte d'être important. Et à quelqu'un qui peut-être est là, il pourrait effectivement nous aider. Est-ce que cette parole,
ça
pourrait être lu comme voilà, ne
crains
pas d'être important.
Oui, c'est ça. Alors, les pères de l'Église, ils ont dit normalement, anaideia, c'est très négatif, c'est de la grossièreté. Mais en fait, il y a une bonne grossièreté qui est en fait une persévérance dans la prière. Vous voyez, ça devient positif. Ils ont une qualité, celle d'une vraie amitié avec Dieu. On se dit, mais en fait, je peux lui casser les pieds comme un vrai ami, quoi. Parce que je sais que l'amitié va être plus forte que ma grossièreté d'insister. Oui.
Bah, j'ai dans Chouraki traduit par impudence.
Oui, impudence, pour une grossièreté.
Mais il y a quelque chose
sans gêne.
Avec le juge et les veuves. Il y a un juge qui...
Alors c'est Luc 18, il y a un peu la suite, vous pourrez lire à la maison si vous voulez. Il y a aussi un juge qui finalement accepte de donner son jugement parce qu'aussi il y a quelqu'un qui lui casse les pieds assez longtemps. Mais ça, je crois que ça encourage, si vous voulez, à persévérer, à avoir du culot, à persévérer dans la prière.
Avec le culot entre impudence et importunité. Quelque chose qui est de fou.
Moi, je dirais que c'est presque de la confiance, quoi. Vous voyez, c'est une insistance qui s'enracine dans la confiance, pas dans l'idée de venir miner la patience de quelqu'un pour finalement obtenir quelque chose du garagiste qui vous ouvre la porte pour vous réparer votre roue parce qu'on est en panne dans la campagne. Vous voyez, à force de dire, bon, il va me laisser dormir, donc je vais lui réparer sa roue et il pourra repartir, comme ça il arrêtera de m'empêcher de dormir. Ben, c'est pas ça.
Une sorte de persévérance dans la demande.
Une sorte de persévérance dans la demande. Mais là, à mon avis, Jésus, il accompagne une théologie d'une personne qui est déçue finalement de Dieu en disant de toute façon ça sert à rien, j'ai demandé déjà 1000 fois de choses, il m'a jamais rien donné, donc je m'en fiche maintenant, je m'intéresse plus à Dieu. Il dit en fait ça marche pas comme ça, il faut persévérer. Alors et c'est là que... quoi? Ben il dit ça donne toujours quelque chose, mais ça donne peut-être pas ce qu'on attendait, à mon avis. Et c'est un peu ce à quoi il conduit plus loin, en disant, en fait, il ne donne pas forcément ce qu'on attend, mais il donne toujours. Alors, les trois trucs qu'il dit, demandez et on vous donnera. Là, effectivement, c'est un passif futur. Donc, quand il y a un passif dans la Bible, c'est toujours Dieu, en fait, le sujet, si vous voulez. C'est comme ça que ça marche. Donc, on vous donnera. Ça veut dire Dieu vous donnera quoi, on ne sait pas, mais il vous donnera quelque chose. Alors ça peut être, comme dit madame, ça peut être dans cette psychologiquement, dans notre façon de demander, mais ça, la façon psychologique, je le verrai plus dans le chercher et vous trouverez, parce que là le sujet c'est actif, vous voyez, c'est nous qui trouverons, c'est pas Dieu qui va nous souffler la réponse c'est le fait de chercher, peut-être de verbaliser, de dire, d'en discuter, de chercher, et on va finir par mettre nos idées en place et on va finir par trouver. Frapper, on vous ouvrira.
J'ai dit, peut-être pour le coup, la prière de demande se transformerait en une prière de partage, ou partager avec d'autres personnes.
Peut-être. Je dirais plus dans la... Peut-être, sauf que pour Jésus, je vous dis, la prière, elle est quand même plus systématiquement, elle est intime et individuelle. Mais ensuite, on sort de sa prière et peut-être qu'on va voir les autres différemment et on peut avoir à ce moment-là un temps de discussion, de mise au point avec les autres avant peut-être de remettre une deuxième couche de prière par-dessus, j'allais dire. C'est aller-retour.
Mais pour moi, la prière de demande, je suis un peu comme madame, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la prière de demande, sauf à se dire, je demande à Dieu que ce qui est de sa propre nature.
Alors en tout cas, oui.
La joie, la liberté, la compassion quand on n'aime pas les gens,
la force,
quoi, quand on est dans la tristesse.
Ouais, alors ça, c'est sûrement bon.
La force intérieure pour faire face à des situations incommensurablement difficiles qui tombent dessus et qui n'ont aucun sens. Et quand on dit on n'est pas exaucé, c'est que je trouve souvent des personnes, j'entends parler autour de moi, demandent des choses de l'ordre matériel. Que mon fils est son père, des trucs comme ça. Peut-être qu'on demandait à Dieu, donne-moi la sagesse pour accepter que mon fils n'est pas son père, ça c'est
une chose. Oui, ça c'est mieux.
Mais voilà, mais avant d'arriver à ça, je trouve que ce n'est pas si évident. Par contre, c'est s'adresser à Dieu comme source de vie et d'être inspiré par cette source de vie dans son quotidien.
Oui, ça de toute façon. Mais je crois qu'on peut quand même faire part de notre préoccupation. Mon Dieu, mon fils n'a pas eu son bac, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire? Et présenter ça. Ce n'est pas pour dire à Dieu, interviens. Mais on peut lui dire, fais ce que tu peux. Alors déjà, on peut lui demander qu'est-ce que je peux faire moi, mais en même temps, on peut se dire, peut-être que Dieu peut agir, faire quelque chose, qu'il fasse ce qu'il a à faire et il le fera bien. Moi, je crois qu'il y a aussi cette humilité, cette confiance, Et c'est là peut-être que c'est pas simplement se débarrasser auprès de Dieu de nos affaires en disant ben voilà la situation, maintenant fais. Non, c'est ensemble peut-être qu'on va voir ce qu'on peut faire. Et je crois qu'il y a, voilà, il faut respecter peut-être ce mystère un peu de ce que Dieu peut faire ou ne pas faire.
Que fait-on quand les gens sont dans une dépression depuis 12 ans ou 13 ans et qu'ils demandent sans arrêt la guérison qui ne vient pas ? Et à ce moment-là, alors qu'ils se découragent, ils ne peuvent plus le dire.
Ben ça, je comprends. Ben oui. Ben, c'est-à-dire qu'il faut...
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ?
Ben, ça demande de la compassion, ça demande de les aider, ça demande de les soutenir. Et puis, je crois, de continuer à prier, oui. Mais de toute façon, c'est vrai que si vous voulez, ça, c'est quand même... la dépression, c'est une des choses les plus difficiles, voilà, parce que c'est difficile de s'en sortir, par définition, puisqu'on n'a pas la force de s'en sortir. Donc, évidemment, c'est difficile, et on a d'autant plus besoin d'aide de l'extérieur et de l'aide de Dieu, voilà.
Y compris l'aide que ça peut être, d'avoir des amis qui sont prêts à renoncer à une part du lien avec la personne, pour encourager la personne à se faire soigner par un professionnel.
Il y en a qui sont soignés, mais ça ne change pas grand-chose.
Ah, ça c'est sûr.
Au bout de 14 ans, je dois être
15. Non, mais ça peut arriver que ça soit très, très difficile.
Vous êtes démunis, vous ne savez pas quoi faire.
Je ne dis pas que c'est facile.
Au bout d'un moment, vous priez, on vous dit, mais moi j'ai prié, ça fait, j'arrête pas de prier, je n'ai jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez répondre ?
Ben, c'est qu'effectivement, des fois, si vous voulez, il faut... Vous avez prié, des fois, il ne faut pas prier pour quelque chose de trop précis. Il faut confier ça à Dieu, mais savoir que voilà, oui.
Est-ce qu'on peut comprendre le frapper comme un espèce de prolongement de la prière ? C'est-à-dire que vous disiez qu'avec demander et chercher, on se met en disposition, on cherche, on discute, etc. Et le moment où on frappe, c'est quelque part le moment de l'action aussi pour essayer de traduire de notre prière, pour essayer de nous inspirer. Donc quelque chose de matériel.
Mais frapper, c'est frapper à la porte et on vous ouvrira. Donc il y a l'idée peut-être d'entrer dans...
Une action.
Entrer dans le royaume, entrer dans la communauté de Dieu, entrer... peut-être dans la maison dont il parlait au-dessus, c'est-à-dire la maison où Dieu a veillé sur ses enfants et où on peut être dans un repos. Oui. Donc ce n'est pas un repos, si vous voulez, un repos de mort. Hein. C'est un repos où on se laisse se relever au milieu, on voit. Hein. Donc je crois que c'est intégrer cette... C'est ce corps du Christ, on dirait, dans l'Église chrétienne, si vous voulez, mais c'est un peu du patois d'Église, alors je cherche des mots plus courants. Ça peut être réintégrer et à la fois la communauté humaine, vous voyez, comme un corps, c'est-à-dire que, voilà, en même temps, par la complémentarité, la différence, le respect de chaque différence dans le corps, chaque membre étant différent mais ayant sa propre vocation, et en même temps, cette compassion qui fait que le petit doigt peut sentir qu'il y a une dent qui est malade et qui a mal et qu'on aille chez le dentiste, si vous voulez. Donc cette compassion qui fait que les membres sont solidaires les uns des autres pour que le corps entier aille bien et qu'en même temps, ce soit Dieu qui serve de tête ce corps, vous voyez. Donc c'est entrer dans cette... humanité réconciliée avec ensemble et avec Dieu et entrer là-dedans, si vous voulez. Et c'est peut-être là-dedans qu'à ce moment-là, la prière de demande devient la plus juste et peut-être la plus féconde. Voilà. En même temps, avec notre vocation à nous, en même temps, avoir l'humilité d'accepter l'aide des autres, en même temps que ce soit Dieu qui coordonne tout ça, en même temps qu'on sache ce qu'est possible et qu'on accepte qu'il y ait des choses qui ne soient pas possibles. Enfin, je veux dire, c'est à la fois cette articulation de tout ce petit monde, de l'humanité, de Dieu, et en même temps, cette sagesse, peut-être, de la justice.
Oui, c'est une fois que Laurent Garvin qui a dit, c'est à part la prédication, avant prier, c'est de nos affaires, hein, avant demander de nos affaires, par la prière, il faut demander d'abord le royaume de Dieu,
C'est ça, c'est le d'abord le royaume de Dieu, après c'est le on peut demander, c'est le par rapport à ça, c'est le c'est ça, c'est le
ça c'est
encore bon, c'est plus loin, mais là bon, c'est si on quand on demande à Dieu, c'est le Dieu n'écoute pas, mais non, c'est il écoute, mais il attend son temps. Il faut attendre qu'est-ce qu'il réagit ?
Mais il agit sans cesse, Dieu. Mais si vous voulez, à mon avis, le fait qu'il agisse par son Saint-Esprit, ça veut dire qu'il agit par une dynamique d'évolution et de vie. Or, toute évolution, bah, je veux dire, un arbre, ça ne pousse pas en une seconde. Hein. On sème un pépin de pomme, bah, avant qu'il y ait un pommier avec des pommes dessus, bah, faut attendre 2 minutes. Bah oui, donc c'est le temps de la croissance, de la maturation aussi, Et donc, voilà, c'est ça, cette patience qu'il faut avoir aussi. Hein. Et puis peut-être cette sagesse d'arroser le pommier de temps en temps, oui.
Quand on dit quiconque demande reçoit, je trouve que c'est quand même vraiment pas facile, parce qu'on a l'impression que c'est quiconque, c'est n'importe qui.
Oui, absolument.
Demande, d'accord, mais reçoit.
Reçoit quelque chose.
On reçoit et on ne voit pas qu'on reçoit.
Voilà, c'est parce qu'on ne voit pas toujours qu'on reçoit. Et...
C'est là aussi le problème de la prière de demande.
Oui.
On fait des demandes et peut-être qu'on n'a pas les yeux suffisamment ouverts sur quelque chose qui fait qu'on ne voit pas l'autre et qu'on ne voit pas.
Exactement. Parce qu'on est trop fixé sur je veux exactement, c'est l'enfant qui commande le Playmobil version Guerre des Étoiles. Et puis au pied du sapin, pense ça va être autre chose. Hein. Et il dit, bah, il est hyper déçu parce qu'il n'a pas son Playmobil Guerre des Étoiles. Bah, il faut être plus largement ouvert à...
Oui, mais justement,
voilà.
Jésus est un dit quiconque. Non, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a reçu.
Quiconque demande reçoit, mais donc, le quiconque ne va pas forcément se rendre compte qu'il a reçu. C'est ça que vous avez raison.
Le sujet de demande, c'est quiconque.
Le sujet de demande, c'est quiconque. On reçoit quelque chose, mais on ne reçoit pas forcément ce qu'on a demandé. Et à mon avis, c'est ce qu'on voit dans la suite. De toute façon, ce que Dieu va donner, ça va toujours être mieux que ce qu'on a demandé. Ça ne va pas être moins bien. Il ne va pas donner une pierre à quelqu'un qui demande un pain. Mais peut-être qu'il ne donnera pas un pain. Jésus ne dit pas que Dieu donnera un pain à celui qui demande un pain.
Parce que la personne qui a déprimé, justement, c'est aussi son état pathologique. C'est qu'elle demande... C'est vraiment tout à fait normal et justifié qu'elle reçoit peut-être quelque chose et qu'elle ne peut pas voir ce qu'elle reçoit parce que.
Exactement, et puis.
De son état pathologique, elle ne peut pas.
Elle ne peut pas forcément voir.
Elle ne peut pas, et par contre, elle n'est pas forcément miracle.
Oui.
Il y a du miracle, à mon avis, qui existe, mais
oui,
ensuite.
Pas forcément,
et pas forcément aussi spectaculaire et exactement ce qu'on attend. Ça, c'est vrai.
Je crois aussi, pardon,
oui.
je pense aussi que la personne qui est déprimée, souvent, l'est parce qu'elle est trop dans la demande et elle n'a pas idée de ce qu'elle peut elle-même donner. Je crois qu'il n'y a rien de plus déprimant que de se vivre comme quelqu'un qui veut et pas comme quelqu'un qui peut donner. Et souvent, la meilleure façon d'aider quelqu'un de déprimé, ça peut être par exemple de lui demander un service.
Et là, vous avez raison, parce que c'est un peu ce qu'on voit dans ce que propose Jésus comme petite parabole. La prière de demande, elle est l'exemple qu'il nous propose, c'est pour un ami qu'on a besoin. Et donc, ça rejoint ce que vous dites. C'est déjà un déplacement, finalement. Est-ce que par hasard, ta prière de demande, elle ne peut pas être une demande pour quelqu'un d'autre, en fait, pour que moi, je puisse donner? Et ça peut aider aussi, peut-être. Alors, mais le problème, là aussi, du déprimé, c'est que pour l'instant, ça, il n'a pas la force de, forcément de ça. C'est déjà des gens qui vont déjà un peu mieux.
Oui.
Moi, il m'a semblé que des gens déprimés que je connaissais n'avaient pas de demande, ne demandaient rien.
Mais oui.
Ils étaient dans l'état où ils ne demandaient même pas.
C'est ça.
Donc, il paraissait à leur entourage qu'ils étaient déprimés, eux-mêmes voulaient rester là où ils étaient. Oui.
Ça peut arriver.
Ça les arrange.
Non, mais oui, ou alors... En tout cas, les images qu'ils donnent, là, de ce qu'on peut leur demander, chercher et frapper pour être incorporé, c'est déjà, à mon avis, des idées d'une progression dans la prière. Alors, j'ai mis derrière des petits passages de saint Augustin et de Maître Eckhart. Alors, et d'Ésaïe, pour commencer. Ésaïe, avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est-à-dire que de toute façon, Dieu, Ça, c'est ce qu'on trouve aussi. Voilà. Avant, Dieu sait très bien de quoi on a besoin et il veut déjà nous le donner avant qu'on le demande. Mais la prière de demande, c'est une façon de s'ouvrir finalement à ce que Dieu peut ou espère depuis toujours nous apporter. Donc ça relativise en même temps la prière de demande et en même temps ça dit que c'est une ouverture indispensable, utile à ce que Dieu veut nous apporter par sa grâce. Voilà. Ensuite, saint Augustin, il nous propose, hein, « C'est à ce que tu aimes que va ta prière. Tu invoques ce que tu appelles en toi, tu invoques ce que tu veux avoir en toi. Or, si tu invoques le Seigneur afin qu'il t'arrive de l'argent, un héritage, une dignité du monde, tu appelles en réalité des biens que tu désires posséder. Tu fais de Dieu un complice de tes convoitises et non un Dieu qui écoute tes prières. » Donc, en même temps, je crois que c'est intéressant d'entendre, alors Maître Eckhart se fait écho de ça et le dit peut-être même encore mieux, lorsqu'on invoque Dieu en ayant en vue un bien de ce monde, ce n'est pas Dieu que l'on invoque, mais l'on invoque ce qui fait l'objet de la prière et on utilise Dieu comme un valet et il dit à ce moment-là, votre Dieu, en réalité, c'est votre ventre, c'est votre santé, c'est votre corps, c'est votre situation matérielle, c'est ça votre Dieu, parce que c'est ça que vous adorez et Dieu n'est qu'un valet au service de votre vrai Dieu. Alors c'est cruel de dire ça, mais en même temps c'est pas complètement faux, il faut se le rappeler. C'est un peu cruel parce que si vous voulez, c'est normal quand son enfant meurt de faim de demander à Dieu du pain pour son enfant, et c'est pas idolâtre de le demander. Donc si vous voulez, c'est un peu à double tranchant, on peut l'entendre et on peut dire, bah écoutez, c'est un peu cruel quand même, c'est selon. Je crois qu'effectivement ça nous dit au moins que on peut avoir cette humilité de dire voilà, je présente à Dieu ma préoccupation pour le bac de mon fils ou je sais pas quoi. C'est pas que ça soit notre Dieu, mais bon, c'est une vraie préoccupation qu'on a et on peut le confier comme on le confierait à un ami en se disant ben fais ce que tu peux faire. Je crois que voilà, c'est là qu'on reconnaît que Dieu est Dieu. C'est peut-être le rôle du Amen qu'on rajoute à la fin de la prière en disant ben écoute, fais au mieux. Les exemples qu'il donne ici, ce n'est pas inintéressant aussi. Il dit demander du pain, demander du poisson et demander un œuf. Quoi. Ces trois images, finalement, un peu de la vie éternelle qui sont données. Parce que le pain, c'est un peu l'image de la parole de Dieu. C'est ce qui dure éternellement. Parce que le pain, si vous voulez, c'est une image un peu dans toutes les paraboles ou toutes les, un peu ces allégories de ce que nous sommes quand Dieu l'a moissonné par sa bienveillance et puis l'a récolté pour la vie éternelle. C'est souvent cette image agricole, si vous voulez, d'un Dieu qui sème, qui laisse pousser en ce monde. La moisson est transformée en farine, c'est une image du jugement bienveillant de Dieu et puis voilà, la vie éternelle. Le poisson, c'est souvent une image de la bête qui vit sans arrêt dans la bénédiction de Dieu parce que quand il y a eu le déluge, ben le poisson, il était à la fête, il risquait rien. Donc c'est un peu l'image de... voilà. Ou bien le poisson aussi, s'il grandit sans cesse, il a les yeux toujours ouverts parce qu'il n'a pas de paupières, c'est une image du juste, si vous voulez, selon Dieu. Et puis l'œuf, c'est une image de renaissance, des choses qui n'est pas grand-chose pour l'instant, mais qui va donner la vie. Donc un peu l'image de la résurrection. Voilà. On est comme un œuf en présence et puis on va éclore à une vie nouvelle. Donc finalement, c'est un peu ce qu'il nous propose de demander, finalement. Peut-être à ce Père qu'est Dieu, ce Père qui est au-delà de toute bonté. Alors là, c'est vrai qu'on dépasse l'image de l'ami. Vous voyez, l'ami... On n'osait même pas lui demander de nous donner les pains. On dit « prête-moi du pain » parce que peut-être qu'il ne va pas... peut-être qu'il ne va pas vouloir nous donner. Peut-être que cet ami, il va compter ses sous. Il dit « c'est à moi, c'est à moi ». Donc cet ami, il ne connaît pas la grâce finalement. Il ne connaît pas le don. Donc je vais lui demander de me le prêter seulement. Donc vous voyez, Jésus, il accompagne vraiment c'est les gens qui l'écoutent dans leur théologie, dans leur méfiance de Dieu. Ils n'ont pas bien saisi un Dieu de la grâce, c'est-à-dire de l'amour gratuit. Ils sont encore dans un Dieu qui va calculer les bons points, les mauvais points, etc. Bon, combien de chrétiens sont encore dans cette idée d'un Dieu qui calcule les bons points, les mauvais points? Donc à ce moment-là, même ceux-là, on leur dit, ben, écoutez, n'hésitez pas à demander à Dieu... de vous prêter, machin. Après, Jésus, il fait évoluer cette théologie en disant non, il est comme un père. Un père, il va pas, quand il donne à son nourrisson, le nourrisson, il a pas mérité qu'on s'occupe de lui. C'est tout juste un don des parents. Bien sûr, le lait que la maman donne à son nourrisson, elle le donne pour parce qu'elle a envie de le faire. Ça lui est naturel. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est Dieu, et même infiniment supérieur. Donc voilà un peu la prière de demande. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres idées par rapport à ça. En tout cas, bon oui, on est encouragé à demander à Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est peut-être la conclusion du truc. Hein?
Saint-Esprit qui correspond aussi à une force.
Qui correspond à une force, qui voilà. Correspond à un élan, voilà, c'est ça.
Et je pensais aussi à cela, vous avez parlé de l'action de l'Esprit Saint, et pour avoir travaillé et rédigé des prières d'intercession pour le monde, autant c'est vendredi, la paix aussi, si ce n'est pas fouillé, enfin, je pense que c'est plus un vœu pieux, mais par contre, s'associer dans la compassion aux personnes,
bah oui.
Et prier pour qu'elle reçoive une force et un esprit et qu'elle soit accompagnée. Je suis vraiment convaincue que cela agit à travers l'esprit.
Ben oui, c'est ça. Oui, moi je pense aussi. C'est la communion des saints au sens de corps du Christ vivant, si vous voulez. Alors ça passe par Dieu, voilà. Enfin, en tout cas, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, on se retrouve donc mercredi prochain, donc avec la suite de ces aventures, avec l'histoire du pardon, voilà.